Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Le 30 octobre dernier, on fêtait le bicentenaire de la naissance de Dostoïevski. Si pour nous, l'auteur de Crimes et Châtiments est le peintre des tourments de l'âme, pour le russe, il est l'écrivain descendu aux enfers, prophète des horreurs du XXe siècle. Le génie de Dostoïevski a connu une jeunesse chaotique. Après le succès de son premier roman, Les pauvres gens, sa vie va basculer lorsqu'un matin d'avril 1849, la police vient l'arrêter pour son implication dans la société secrète de Petrachevski, groupe connu pour ses idées politiques subversives. Le tocsin sonne pour le jeune écrivain âgé d'à peine 28 ans. C'est son histoire que je vais vous raconter aujourd'hui dans ce nouvel épisode en deux parties. Seconde partie, souvenir de la maison des morts. La Katorga, la maison de force d'Omsk, fait partie du paysage de la ville. On est là, au plus profond de la Sibérie. Au sud, à quelques 100 kilomètres, c'est le Kazakhstan et les plateaux désertiques. Omsk, perdu au milieu de nulle part, se trouve plus proche de la frontière mongole que de Moscou. L'hiver, il peut faire jusqu'à moins 50. Les palissades du bagne, hautes de 5 mètres, se dressent, menaçantes, devant les façades ouvragées des maisons de la ville. Dans cette région, toutes les constructions sont en bois. Les forêts alentour sont si denses, si grandes, si épaisses qu'elles fournissent la principale matière première dont on fait les bâtiments. Bois et village, d'ailleurs, sont désignés en langue russe par le même mot, à une syllabe près.
Quand on pénètre dans l'enceinte, on voit quelques bâtiments. De chaque côté d'une cour très vaste s'étendent deux constructions de bois faites de troncs équarris à un seul étage. Ce sont les casernes des forçats. On y parque les détenus divisés en plusieurs catégories. Au fond de l'enceinte, on aperçoit encore une maison, la cuisine, divisée en deux chambrées. Plus loin encore se trouve une autre construction qui sert tout à la fois de cave, de hangar et de grenier. Le centre de l'enceinte, complètement nu, forme une place assez vaste. C'est là que les détenus se mettent en rang. On y fait la vérification et l'appel trois fois par jour, le matin, à midi et le soir, et plusieurs fois encore dans la journée si les soldats de garde sont défiants et habiles à compter. Tout autour, entre la palissade et les constructions, il reste une assez grande surface libre où quelques détenus misanthropes ou de caractère sombre aiment à se promener quand on ne travaille pas. Ils ruminent là, à l'abri de tous les regards, leurs pensées favorites. Lorsque je les rencontrais pendant ces promenades, j'aimais à regarder leurs visages tristes et stigmatisés et à deviner leurs pensées. Un des forçats avait pour occupation favorite, dans les moments de liberté que nous laissaient les travaux, de compter les pieux de la palissade. Il y en avait 1500. Il les avait tous comptés et les connaissait même par cœur. Chacun d'eux représentait un jour de réclusion. Il décomptait quotidiennement un pieu et pouvait, de cette façon, connaître exactement le nombre de jours qu'il devait encore passer dans la maison de force.
Premier jour, premières épreuves. Dostoïevski, considéré comme noble par ses compagnons de casernement, attire le mépris, voire la haine. Dans le baraquement où sont à 50 détenus, on a jeté pêle-mêle les condamnés de toutes espèces. Meurtriers, violeurs, voleurs, dorment à côté de notables envoyés au bagne pour avoir participé à des réunions interdites ou avoir lu des livres censurés. L'espace est si étroit qu'une fois allongés sur leur paillasse, les têtes des détenus se touchent. Dostoïevski va faire dès les premiers jours le constat que la promiscuité non consentie est une des pires tortures qu'on puisse infliger à un être humain. Il en tirera cette conclusion étonnante. L'homme est une créature qui s'habitue à tout, c'est même ce qui le définit. À la Katorga d'Omsk, on ne peut pas dire que le travail forcé soit insupportable. Dostoïevski décrit des tâches relativement simples à accomplir, entrecoupées de longues pauses. Il s'agit par exemple d'aller démonter une barque hors d'usage au bord d'un lac voisin. Les forçats rechignent à accomplir le travail. Les soldats qui les surveillent se fâchent. En fin de compte, tout le monde s'y met avec plus ou moins d'entrain. Une fois la barque démantelée, on revient au baraquement. Les travaux forcés laissent le temps aux détenus d'effectuer d'autres activités pour leur compte personnel. On organise des trafics en tout genre, d'eau-de-vie, de tabac, de victuailles. Si ces petites entreprises sont interdites par le règlement, Elle prospère envers et contre tout, avec la complicité tacite des responsables du bagne qui se contentent de temps en temps d'une petite inspection. Il y a là un fait qui a échappé à bien des historiens de la Russie. Il est en effet difficile de comparer les travaux forcés de l'époque tsariste au goulag de l'époque soviétique, et encore moins au camp de concentration nazi. Le quotidien des bagnards de la Katorga d'Omsk ressemble bien plus à celui des prisonniers de guerre de Kolditz qu'aux déportés d'Ekibastouz, le Dachau russe. Durant ces années de détention, Dostoïevski va réussir à se faire respecter et même à se faire aimer. Des détenus vont se dévouer à son service et faire office de valet. Parmi les prisonniers, il se trouve bien sûr des irréductibles, de véritables fauves humains qu'il n'approchera jamais. Mais les plus faibles d'entre les bagnards, ceux que tous rejettent, trouvent auprès de lui réconfort et amitié. Au fil des mois, il fait l'expérience de la proximité constante avec cette entité que les nobliaux révolutionnaires de Saint-Pétersbourg n'évoquaient qu'en théorie et qu'ils n'auraient pas approché sans une expression de dégoût, le peuple. Ce peuple, Dostoïevski le découvre au bagne, sous la rude écorce du criminel, du réprouvé, du misérable. Dans les baraquements, les soirées et les nuits passent au crible de l'entassement des corps, la puanteur, les jurons, les disputes. On surveille chacun de ses effets, car ici tout le monde vole tout le monde. Le seul frein à la pagaille est la menace d'une inspection du sous-officier du camp qui n'hésitera pas à faire fouetter les fauteurs de troubles. Au cœur du chaos, alors que Dostoïevski, qui n'a pas 30 ans, a vu sa vie basculer dans le néant et son avenir brisé, ses aspirations, toujours frémissantes, vont trouver un terreau propice à leur développement. Ce peuple russe qu'il voulait approcher, il va apprendre à le connaître, à nouer avec lui un lien vivant. Ces forçats qui semblent avoir perdu tout visage humain sont désormais pour lui des hommes véritables, des caractères profonds, puissants et beaux, de l'or sous l'ordure. On se garde toutefois de voir dans la prison ou le bagne de l'époque une chance pour parvenir à l'expression de soi et à l'altruisme le plus désintéressé. Non, si les travaux forcés ont donné à un homme comme Dostoïevski l'occasion de trouver, sinon la vérité avec un grand V, du moins sa vérité, c'est que le personnage est d'un caractère exceptionnel. Pour le meilleur comme pour le pire, il en convient lui-même, le bagne est un châtiment inutile, cruel, pervers. S'il affirme à son frère a posteriori que le bagne a tué beaucoup de choses en lui et en a fait éclore d'autres, il refuse à cette peine tout effet salvateur sur les criminels qui y sont condamnés.
Il est avéré que ni les maisons de force, ni les bagnes, ni le système des travaux forcés ne corrigent le criminel. Ces châtiments ne peuvent que le punir et rassurer la société contre les attentats qu'il pourrait commettre. Ceux qui n'étaient pas encore corrompus en arrivant à la maison de force s'y pervertissaient aussitôt. Le système cellulaire soutire du criminel toute sa force et toute son énergie, énerve son âme qui l'affaiblit et effraie, et montre enfin une momie desséchée et à moitié folle comme un modèle d'amendement et de repentir.
Non, le seul tribunal qui vaille pour Dostoïevski, c'est celui de la conscience. Et la seule peine qui soit féconde, c'est la souffrance causée par la conscience de son propre crime qui offre un chemin de purification authentique à celui qui a commis le mal. L'auteur de Crimes et Châtiments va faire son credo de cette idée que chacun est coupable devant tous et que la prise de conscience de cette vérité fonde l'homme et le sauve. Au bagne, il va d'ailleurs accepter sa peine librement. S'il a été condamné, ce n'est que justice. Il est vrai que si l'on en croit le témoignage de ceux qui l'ont connu dans sa jeunesse, il n'avait rien d'un saint homme. Débauché, fanfaron à 16 heures, il se serait vanté auprès d'un ami d'avoir violé une fillette de 8 ans lors de son voyage à Londres. Médisance de jaloux, il n'en reste pas moins que la thématique de l'enfant abusé est présente dans deux de ses œuvres majeures. A-t-il vraiment commis le crime épouvantable dont parle cet ami ? Nul ne le sait. Ce qui est sûr, c'est que Dostoïevski, dans son exploration des gouffres du cœur humain, a pu croiser en lui des sentiments ou des idées sordides dont il n'a pu s'affranchir que par l'écriture. Ne disait-il pas lui-même qu'il lui fallait écrire ou mourir ? « Dostoïevski, au bagne, rencontra son propre cœur en même temps qu'il conçut, pour les réprouver, les exclus, les marginaux, une passion presque amoureuse qui décida de sa vie de romancier. Sitôt libéré et conduit à son lieu d'exil de Semipalatinsk, dans l'actuel Kazakhstan, il se mit à la rédaction de ses souvenirs de bagne, qu'il appela « Souvenirs de la maison des morts ». L'ouvrage eut un succès fulgurant. Le tsar lui-même, dit-on, fondit en larmes. Dans les mois qui suivirent, les châtiments corporels furent supprimés des sévices infligés aux forçats. Tolstoï, alors au fait de sa gloire, désigna l'ouvrage comme le meilleur de toute la littérature russe, Pouchkin compris. À Saint-Pétersbourg, on salue la naissance d'un nouveau Dante. Il avait fallu au jeune et impétueux écrivain cette descente aux enfers pour consacrer sa mort au monde et sa résurrection dans une littérature marquée du sceau de ce qu'il appelait la vie vivante. Dostoïevski, libre, il n'en fut pas pour autant délivré de ses démons. Frappé de crises d'épilepsie parfois quotidiennes, possédé par la passion du jeu, fui par les femmes que dégoûte son aspect physique, il ne lui reste qu'une ressource, écrire. Le bagne lui a donné de vivre une rencontre vraie avec l'autre dans ce qu'il a de plus repoussant. Il lui a ainsi donné des yeux pour explorer sans crainte les abîmes de son propre cœur, qu'il ne cesse de découvrir, selon le mot de Jean de Kronstadt, creux et plein d'ordures. Jusqu'à la fin de ses jours, il sera le témoin à la fois émerveillé et horrifié de cette nature humaine qu'il contemple en lui-même et en l'autre, et dans laquelle il cherche inlassablement le sceau de l'amour derrière le néant, la beauté sous la laideur et le paradis au fond de l'enfer.
La beauté. En plus, ce que je ne supporte pas, c'est qu'il y en a plein, et même des gens au cœur très noble et à l'esprit très haut, qui commencent par l'idéal de la Madone et qui terminent par l'idéal de Sodome. Le plus terrible, c'est que même avec l'idéal de Sodome au fond du cœur, ils ne renient toujours pas l'idéal de la Madone. Et que cet idéal, il leur fait brûler le cœur pour de vrai. Ils brûlent pour de vrai dans les pures années de leur jeunesse. Ce qui est affreux, c'est que la beauté, non seulement c'est une chose terrifiante, mais c'est une chose qui a un secret. Le diable et le bon Dieu qui luttent ensemble avec, pour champ de bataille, le cœur des gens.
Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Xavier Joly. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode est disponible sur le site d'Europe 1. Je vous retrouve quant à moi très bientôt pour un nouveau récit au cœur de l'histoire.